Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Radio Capi qui vous propose ces nouveaux numéros des paroles aux auditeurs. Toute exonération fiscale, non fiscale et douanière octroyée par simple lettre ou sans arrêté ministériel émis selon la procédure légale doit être annulée sans aucun délai, a décidé le Conseil des ministres vendredi 4 septembre sous la direction du président Félix Tshisekedi. Cette décision intervient à la suite des résultats préliminaires de l'examen des exonérations et allègements fiscaux réalisés par l'Inspection générale de finances. Ces résultats préliminaires révèlent que certaines des exonérations et allègements fiscaux, quoique prévus par la loi, ont été octroyés en violation de la réglementation en vigueur. Comment commentez-vous cette actualité? 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Cette émission est mise en onde par Polydor Basunga, réalisée par Marcel Ngombo, Pierrot et Lameiji. C'est pour moi un réel plaisir de vous la présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs Pierrot et la Mégie.
Et pour parler de cette question, nous recevons dans ce studio le professeur Mathias Boboa Kayembe. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté encore l'invitation de parole aux auditeurs. Alors, il y a deux mots qui apparaissent là dans l'énoncé du sujet, exonération fiscale, non fiscale, douanière. Tout le monde en parle, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Mais est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre c'est quoi exactement l'exonération fiscale, non fiscale, douanière?
Bon, l'exonération, c'est une dispense du paiement des impôts ou bien des taxes. La situation dans laquelle certaines entreprises se retrouvent de ne pas payer les impôts, parce que en fait le principe dans ce domaine, c'est que tout le monde doit payer son impôt. Ça, c'est le principe qui est inscrit dans la Constitution, l'impôt pour tous. Alors la même Constitution dit à son article 174 que il ne peut y avoir d'exonération, donc d'empêchement à payer les impôts que par la loi, s'il y a une loi qui existe. Donc, ces lois concernent les exonérations dans le cadre de la DGI, là c'est fiscal, parce que la DGI s'occupe de la fiscalité, et la DGDA s'occupe des droits et redevances qui sont payés dans les frontières, donc là c'est des exonérations par rapport à ces redevances-là, et la DGRAD s'occupe des taxes essentiellement, de la perception des taxes. Si les exonérations concernent la DGRAD, on parlera des exonérations parafiscales ou bien de taxes par rapport aux taxes.
Et ça, c'est prévu par la loi. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour qu'une entreprise puisse bénéficier d'une exonération?
Bon, je ne dirais pas que c'est prévu par la loi. Il y a des exonérations qui sont prévues par la loi. C'est par exemple, j'en ai fait la liste. Il y a à peu près une dizaine de types d'exonérations.
Oui.
Il y a des exonérations prévues par le code des investissements. Il y a des exonérations prévues par le code minier. Là, les deux sont légales parce qu'il y a une loi à la base. Il y a des exonérations prévues par pour les ambassades dans le cadre de la diplomatie, ambassade, chancellerie. Il y a le code des impôts qui prévoit des exonérations pour eux. Il y a également des exonérations prévues au profit des ONG, des églises, des établissements publics. Là aussi c'est légal. Il y a des exonérations prévues par l'arrêté ministériel numéro 076 du 13 janvier 2012 sur la prise en charge de la fiscalité indirecte des marchés publics à financement extérieur. Là, c'est illégal parce que ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi qui le prévoit, c'est un arrêté ministériel.
Est-ce que c'est pour un arrêté ministériel, ça peut être quelque chose de conjoncturel ou ça risque de rester permanent? C'est bon. Ça, des fois, le problème.
Bon, mais l'arrêté ministériel ne peut pas fixer les exonérations. Donc, mais ça pourrait être conjoncturel. Mais si c'est conjoncturel, c'est illégal aussi. Parce qu'en fait, le ministère des Finances est là pour mobiliser les recettes essentiellement, mm-hmm. en appliquant le principe que nous avons dit, ici l'impôt pour tous. Mm-hmm. Et là pour... Donc il devrait vraiment ne pas créer des situations où des gens peuvent être dispensés du paiement de ces impôts et taxes.
Mm-hmm. Et ici, dans la question qui fait débat aujourd'hui, c'est qu'il y a des entreprises qui font des profits, mais qui, on se retrouve, la plupart ont bénéficié des exonérations, alors qu'elles ne pouvaient pas bénéficier de ça. Mais est-ce qu'il y a des cas spécifiques où une entreprise qui dit « je viens investir au Congo », qu'est-ce que la loi me dit ? Bon, voilà, pour cette période, vous êtes exonéré, par exemple, de ça, à cette période-là, vous allez commencer à payer l'impôt. Et dans le rapport de l'IGF, c'est qu'on se rend qu'il y a des entreprises qui ont bénéficié, par exemple, d'une exonération quand elles devaient s'installer pour investir. Et elle est là depuis plus de 10 ans, elle commence à ne pas payer l'impôt alors que l'exonération ne pouvait pas rester permanente. Voilà un peu dans cette confusion où on se retrouve aujourd'hui dans ces débats.
En fait, on a fonctionné jusqu'en 2002 avec la loi sur les investissements, un code des investissements, mm-hmm. qui prévoyait des exonérations pour des périodes très longues, jusqu'à 25 ans, dans le régime conventionnel, par exemple. On a vu que cette loi n'avait pas donné les résultats parce qu'elle avait pour objectif de faire venir au pays des investisseurs. Mm-hmm. Ils sont pas arrivés. Donc, en 2002, on a mis en place un guichet unique et une nouvelle loi. Mm-hmm. Normalement, c'est cette loi qui est la loi cadre en ce qui concerne les investissements dans le pays. Et je crois que le rapport de l'IGF n'a pas visé les exonérations qui sont prévues par le code des investissements. Mm-hmm. Mais tout ce qui est venu après, tout ce qu'on a mis après, par exemple les exonérations accordées dans le cadre du partenariat stratégique sur la chaîne de valeur, ça c'est illégal aussi parce que c'est mis en place par un décret. Et beaucoup d'entreprises dont vous parlez sont couvert par cette exonération-là, mm-hmm. de chaîne de valeur. Et pour des périodes très très longues, on ne sait pas quand ça va mm-hmm. s'arrêter. Alors que le Code des investissements prévoit bien des périodes de 3 ans, 4 ans, 5 ans, mm-hmm. tout au plus.
Alors, professeur, mais là, le grand problème, c'est qu'on est dans un pays qui a besoin de mobiliser de fonds parce qu'on a un problème sérieux de budget, un problème sérieux de pauvreté. Mais comment, au même moment, le pouvoir public qui a besoin d'argent, le ministère des Finances qui a besoin d'argent, peut en même temps permettre aux entreprises de rester autant d'années sans pour autant payer au trésor public? Comment arriver à expliquer ça?
Bon, je ne sais pas, vous savez, c'est... je ne sais pas. Il y a toujours une raison à la base hein, pour, mm-hmm. pour accorder les facilités fiscales. Parce que moi, je les appelle facilités fiscales ou parafiscales. Il y a toujours une raison. Le code des investissements, c'est pour attirer les investisseurs. Mm-hmm. Et on voit les résultats qui sont là. Mais du côté des hommes d'affaires, bon, ils cherchent à profiter de toutes les situations possibles.
Exact.
Donc l'État lui-même a créé des situations
qui profitent à certains...
Qui dérogent du cadre légal et dont les hommes d'affaires cherchent à profiter. Parce que pour eux, mm-hmm. ne pas payer les impôts même pendant
ça
10 l'arrange. Ans, 20 ans, tant
ça
mieux.
L'arrange.
Tant okay. mieux. Donc, mm-hmm. voilà. L'homme Alors, d'affaires cherche à échapper à l'impôt. Et si
l'État le lui permet,
il va le faire.
Ça l'arrange.
Sans état d'âme, mais ça le fragilise aussi. Parce que là, il se met dans une situation... fragile, le jour où on va découvrir ça, il risque de payer des pots cassés. Mm-hmm.
Voilà. Alors, on va écouter les auditeurs. Franck, vous êtes à Boutembo, Andréa Kananga, Alain Tambandaka. Nous recevons dans ce studio le professeur Mathias Boboakayembe. Nous parlons de la question des exonérations. Comme on l'a dit, le gouvernement a souhaité que les exonérations, même si elles sont prévues par la loi, mais qui n'ont pas respecté la réglementation en vigueur, soient carrément annulées, parce qu'on estime que cela fait échapper beaucoup d'argent au trésor public. Franck, vous êtes à Boutembo. Merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Et bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Franck.
Je salue l'avis du professeur Kayembe dans son grand exposé. Je suis tellement éminemment ému par cette intervention. Mais je vais aborder ce sujet dans le cadre de cette décision prise par le président de la République. Donc, je suis d'accord de ce point de vue où le gouvernement prend de telles décisions, mais il fallait aussi voir de l'aspect légal par rapport à cette décision prise par le gouvernement congolais. Donc, notre regret, c'est que le gouvernement ait constaté des irrégularités dans les domaines en études. Donc, n'a pas su poursuivre la question relative aux criminalités déjà causées à l'État congolais, mais ne fait que prendre des décisions d'abord pour la suppression, d'abord, donc, supprimer les allègements fiscaux, mais au lieu de poursuivre les criminels qui en font autant de mal pour le peuple congolais. Donc, si nous pouvons observer la question par rapport aux prélèvements, il fallait aussi étudier la question par rapport à ce qui est du domaine de de l'exonération fiscale. Mais quand est-ce que cela peut être accordé? Donc, nous voyons, il y a par exemple, l'État peut se sentir dans ce cadre qui dépend des décisions qui entrent sur le plan logique, ou soit sur le plan politique, à supprimer les actes d'exonération. Mais la question sur les vins, c'est par rapport aux questions des dûs que la population notamment attendait par rapport à cette question. Donc, vous savez qu'il y a des entreprises au Congo, comme l'a soulevé le professeur KMB, qui fonctionnent au niveau de la qui fonctionnent dans le pays et qui sont dans ce même régime d'exonération, ils sont exonérés, soit ils ne payent pas l'impôt tel que la loi le prévoyait et ils sont ouverts sur les questions relatives au parapluie politique. Donc notre souci est que le gouvernement puisse se saisir, se réveiller et de pouvoir mobiliser les moyens permettant celui-ci à pouvoir venir aux besoins de la population. Parce que comme vous le savez, les impôts entrent dans le cadre de ressources que l'État doit mobiliser au niveau des contribuables, notamment auprès des citoyens congolais, afin de lui permettre d'exécuter le plan, donc d'intervenir dans tous les secteurs et de répondre à ces missions régaliennes dont la population attend de lui. Mais le comble, c'est par rapport à cette question. Mais quand il y a violation, quelle est l'attitude du gouvernement par rapport à cette question?
Alors, rappelons, Franck, que dans le communiqué, n'est-ce pas, de l'inspection générale des finances, quand l'inspection devait s'est lancée dans les enquêtes sur cette question d'exonération, l'inspection avait dit ceux qui auront bénéficié de l'exonération d'une manière illégale s'exposent à des poursuites judiciaires. Ça, c'est un autre volet. C'est ça votre souci. Il ne faut pas seulement qu'on puisse supprimer, mais s'il y a des gens qui ont bénéficié des exonérations illégales, est-ce qu'il faut qu'ils soient poursuivis? C'est ça votre souhait. Mais rappelons quand même que lors de son point de presse, l'inspecteur des finances avait annoncé avoir découvert 1300 exonérations qui ont occasionné près de 5 milliards de dollars qui devaient en principe se retrouver dans les trésors publics, qui ne s'y retrouvent pas parce que les gens ont bénéficié des exonérations. Merci beaucoup Franck de Boutembo. André, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot, et bonjour à votre invité.
On vous écoute, André.
Oui, merci. Nous avons dit que la décision prise par le Conseil des ministres, elle est vraiment importante suite aux informations fournies par l'IGF. Nous avons pensé que les exonérations octroyées aux entreprises d'une manière illégale, par voie d'une simple lettre, est vraiment une violation de la loi est aussi constitue un manque à gagner pour le gouvernement. Parce que vous voyez que d'une manière générale, les exonérations doivent être octroyées aux entreprises en cas de faillite. c'est dans le moment où, par exemple, l'entreprise a fait plus de
Et là, André, on a des petits soucis hein, avec votre téléphone entre Kinshasa et Kananga, ça pose des petits soucis. Mais vous avez dit, vous saluez la décision du gouvernement qui est importante. S'il y a des gens qui ont bénéficié il y a eu des exonérations comme le rapport de l'inspection générale des finances, sur base d'une simple lettre, n'est-ce pas, d'un ministre. Hein, vous estimez que ça doit être carrément annulé. Mais aussi, vous dites qu'il y a des entreprises qui peuvent bénéficier parce que la loi les prévoit s'ils sont en faillite. Mais là, on a eu des petits soucis. On voit avec la réalisation. Si vous pouvez vous déplacer, André, tout en intervenant, peut-être que ça peut s'améliorer, André.
Oui, vous m'écoutez,
Oui, allez-y.
Ok. Alors, je disais que si des exonérations ont été octroyées d'une manière illégale, il faut tout simplement annuler parce que ça constitue un manque à gagner pour l'État et tout pour la population, parce que lorsqu'on accorde ou on octroie les exonérations, c'est en fait dans le sens que la société ou l'entreprise a connu une crise. Elle est incapable de payer ses fonctionnaires, elle est incapable de produire en vue que la population se retrouve. Mais les exonérations, nous constaterons qu'actuellement, en RDC, ce ne sont que les politiciens qui sont bénéficiaires, avec les entreprises créées circonstanciellement, et tout simplement pour se retrouver et pour s'échapper au contrôle de l'État. Alors, à mon humble avis, moi, je souhaiterais c'est que qu'on puisse annuler purement et simplement cette exonération et poursuivre, traduire en justice les personnes ou les autorités impliquées.
Merci.
Et dans ce cas-là, je voudrais poser la question à l'invité pour savoir, en cas de violation de cette loi, alors, quelle est la peine prévue pour les gens qui ont par exemple, violé.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous voulez savoir quelle est la peine? Bon, ceux qui ont violé la loi, cela veut dire les fonctionnaires publics qui devaient en principe, qui ont octroyé illégalement les exonérations, y compris les bénéficiaires des exonérations. Mais votre souci aujourd'hui, c'est de voir qu'il y ait des poursuites judiciaires. Merci beaucoup, André. Alain, vous êtes en Bandaka. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, Alain.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à l'invité de la radio Kati. Bonjour à tout le monde qui nous écoute à ce moment.
On vous écoute, Alain.
Monsieur le journaliste, avant tout, il faudra préciser quelque chose. Et que l'impôt est créé sur base d'une loi. Et c'est la loi qui institue les régimes d'exonération. Ce n'est pas par une simple lettre ou par un simple arrêté du ministre qui peut exonérer les contribuables. Monsieur le journaliste, je suis tout à fait d'accord avec la décision prise par le gouvernement qui, à mon avis, commence à poser les actes de haute responsabilité et de maturité, allant dans le sens d'éradiquer les différentes discriminations derrière toutes ces exonérations contenues dans les différentes lois, de notre pays. Monsieur le journaliste, vous le savez comme moi, la loi impose à tout citoyen congolais, étranger habitant au Congo, personne morale ou physique, d'en supporter l'impôt. Ceci ressort du principe de la territorialité réelle qui veut en sorte que le revenu réalisé au Congo soit imposable fiscalement. Cette attitude ou, si vous le voulez, déroulement des choses, constitue un véritable handicap dans la mobilisation des recettes publiques, étant donné qu'une portion importante des contribuables échappe à cette obligation, combien noble pour un État. Monsieur le journaliste, cette évasion fiscale, j'estime que le gouvernement du salut public doit serrer davantage les vis en tracas sur pied d'un audit généralisé sur les acteurs opérant de façon de récupérer des droits de force des droits dits à l'État. Une véritable démarche tendant à booster le pays vers son émergence ou voir son développement. En outre, monsieur le journaliste, nous savons que les tireurs et les bénéficiaires indûment de ces exonérations sont des dignitaires et hommes politiques qui se font octroyer abusivement et tous ces avantages parce que la procédure de ces exonérations sur les simples correspondances, comme je l'ai dit tantôt, voire les arrêtés des ministres ne sont pas conformes
à la loi. À la loi. Merci beaucoup. D'ailleurs, on rappellera que l'inspecteur des finances, merci Alain, l'inspecteur des finances avait insisté hein, dans sa lettre d'ailleurs, pour dire que la plupart des gens qui ont permis à ces entreprises d'avoir ces exonérations, ce sont des responsables politiques. Merci à Franck, André et Alain. Éminent, vous êtes à Bouga, vous gardez la ligne avec Élise qui est à Goma. On revient dans ce studio. Professeur Mathias Bobo-Kayembe, vous avez suivi hein, les compatriotes, il y a deux choses qui s'est dégage. Il voudrait bien sûr que ceux qui ne répondent pas à la loi soient annulés, mais qu'il y ait aussi des poursuites judiciaires pour les uns et les autres.
Bon, là c'est la décision du gouvernement. Ce ne sera pas la décision de quelqu'un qui n'est pas au gouvernement. Mais je pense qu'il y a deux sortes de sanctions. Il y a des sanctions fiscales, c'est-à-dire des amendes. Normalement, en ce qui concerne les entreprises, on doit leur infliger des amendes. On ne peut pas aller tuer la poule aux œufs d'or. On ne peut pas s'attaquer à une entreprise comme telle, mais il faut lui infliger des sanctions fiscales, c'est-à-dire des amendes. Mais il y a d'autres sanctions qui sont des sanctions pénales par rapport à des personnes qui se sont abstenus de payer leurs impôts. Mais là, nous sommes dans une situation où ça a été favorisé par l'ordonnateur des recettes, par les responsables du ministère en charge de la perception des recettes. Donc c'est le gouvernement qui doit apprécier et décider.
Alors, quand on entre un peu sur la question pratique, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux auditeurs qui ont dit qu'on ne peut pas octroyer sur base d'une simple lettre. Et c'est pourquoi Franck parlait des couvertures. Cela veut dire que les entreprises profitent de ces couvertures et pouvoir bénéficier de cela. Mais comment expliquer aussi que ça ait mis beaucoup de temps, que ces pratiques aient mis vraiment beaucoup de temps que l'inspection des finances ne puisse pas s'en saisir, si on peut dire ainsi.
Bon, vous savez que nous avons des services étatiques, comme l'inspection des finances, comme la Cour des comptes, etc. Mais ces services ont besoin de peuvent fonctionner s'il y a la volonté de les faire fonctionner. Et là, on a vu qu'il y a la volonté de faire fonctionner l'inspection des finances, tant mieux. Donc, je crois que ce qui manque, ce qui manque, c'est la volonté politique. Maintenant, on sent qu'il y a la volonté de s'attaquer à cette situation-là.
Mais est-ce que, sur la question fiscale, quelle est en principe la responsabilité de régie financière? Est-ce que c'est seulement dans la perception, mais aussi l'encadrement, l'accompagnement des opérateurs économiques pour leur dire voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Est-ce qu'ils se limitent seulement à percevoir ou ils peuvent accompagner aussi les opérateurs économiques pour qu'ils sachent exactement quand ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas bénéficier?
Non, mais il y a tout un service de communication dans les régies financières qui doivent expliquer les impôts, expliquer les échéances fiscales, expliquer les avantages accordés aux hommes d'affaires, etc. Donc, ils ne sont pas là seulement pour percevoir, ils sont là également parce que pour percevoir, il faut convaincre la personne qui doit payer. Donc là, il y a toute une communication qu'il faut faire pour que l'intéressé vienne. Et je pense qu'en ce qui concerne l'État, parce que ce sont des services de l'État, et ces services-là, si vous prenez la DGI, c'est ce qu'on appelle le fisc. Mais le fisc, en fait, c'est le ministère des Finances. Donc, si ces services ont reçu une instruction de la part du ministère des Finances, ils vont l'appliquer. Ils vont l'appliquer, mais je pense aussi que une instruction doit toujours cadrer avec la loi. Doit se situer dans le cadre de la loi. Si elle ne cadre pas avec la loi, normalement, les services ne devraient pas l'appliquer.
Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure, en évoquant le code sur les investissements, que l'idée derrière, c'est d'attirer effectivement les investisseurs. C'est-à-dire qu'il faut leur permettre d'avoir confiance et de venir. Mais Est-ce que les gens ont profité du code des investissements, de dire que nous pouvons inviter les investisseurs et s'est caché derrière ça pour arriver à ces abus sur des exonérations à côtoyer avec des simples lettres?
Non, le code des investissements, les exos ne sont pas octroyés par simple lettre. Là, c'est un arrêté interministériel, signé par le ministre du Plan et le ministre des Finances. Quant à dire s'il y en a qui ont profité de ces situations-là, parce qu'en fait, le code des investissements, c'est les avantages qui vous sont accordés, et c'est sur base d'une déclaration que vous faites. Vous faites la déclaration de faire venir des équipements, des machines et autres pour les mettre en place au Congo et commencer à produire en engageant autant de personnel. Donc, cette déclaration-là, si elle est exécutée effectivement, tant mieux. C'est-à-dire que vous allez engager ce personnel, vous allez vous mettre à produire ou bien vous allez construire un bâtiment de autant de niveaux. Mais si elle n'est pas exécutée, l'État ne paie rien du tout. Si vous n'avez pas fait venir ces machines-là, autres, l'État ne paie rien. Mais ce que l'État souhaiterait, c'est que la déclaration que vous faites soit appliquée. Donc, l'État a tout à gagner. Mais je pense aussi que le Code des investissements, on peut arriver à une situation où on met fin au Code des investissements. C'est-à-dire que si le grand problème, c'est l'assainissement de la situation, si l'État arrivait à assainir la situation, à réduire un peu l'ampleur des taxes, des impôts dans notre pays, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Si les gens cherchent à passer par tous ces mécanismes, parce qu'il y a beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts.
Ah, et ça, c'est une dimension assez importante aussi.
Oui, c'est une dimension importante. S'il y a un professeur canadien qui a fait un répertoire de taxes et des impôts qui sont payés à l'État, à la ville, aux provinces, et ça fait quand même plus de 1000 taxes et autres. Et il a proposé qu'on puisse assainir. Si on arrivait à assainir, il n'y aurait pas de raison d'avoir des exonérations, parce qu'on a déjà assaini, la situation est normale, les gens trouvent que venir au Congo pour investir, on va comme dans du beurre. Donc, ce sera très, très bien.
Et d'ailleurs, ça évoque même le débat. Je me rappelle la dernière émission que nous avons eue avec vous, parce que je me rappelle encore cette dernière émission que nous avons eue avec vous. Il fallait aussi, beaucoup de gens ont estimé qu'il faut une réforme fiscale. On va revenir peut-être en deuxième partie d'émission sur cette question de la réforme fiscale, parce que vous avez dit que c'est trop lourd. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez intervenir en direct en nous appelant au 081-890-4969, 081-890-4969 pour intervenir en direct dans ce magazine. Alors nous allons revenir à vous tout à l'heure, Alain, qui est notre ami Élise qui est à Goma et Emina Mwanda à Bukavu après quelques secondes.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Capi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Élise, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Goma, au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour de la radiographie. Bonjour aux autres intervenants.
On vous écoute, Élise.
Oui, parlant de la question d'exonération en RDC, en tout cas, il y a beaucoup à voir là-dedans. Voilà pourquoi, par rapport à ce qui est relevé par mes prédécesseurs, tellement effacé, c'est tellement clair. Mais dans tout ce qui se fait, c'est là, c'est que ça devrait tomber sur la population en premier. Mais le metteur en scène de tout cela sont les autorités en place. Pourquoi? Le ministère des Finances, par aussi son inspecteur des Finances et tous les services, en fait, sont censés connaître ce qui est l'essentiel à faire. Les taxes et impôts, les fraudes que nous observons dans ce secteur sont les choses très bien suivies par le gouvernement. Pourquoi? Ils sont les émetteurs de lois, ils ont rédigé des lois, et ces lois sont des lois qui régissent le secteur financier de la RDC. Mais en observant des exonérations exagérées et en désordre, c'est-à-dire elles-mêmes sont à la base de certaines de ces fraudes. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que en observant les arrêtés, en observant même les propos de l'inspecteur des finances, il a très bien parlé de certaines choses qui s'observent, c'est que ce sont les hommes politiques qui parviennent à avoir plus d'influence dans ce que sont les exonérations. C'est vrai, les exonérations font perdre beaucoup au gouvernement quand nous les avons. Je me réfère un peu à un rapport qui a été publié, si je ne me trompe pas, vers 2015, par, je crois, c'est l'inspecteur qui avait publié qu'il y a une affaire de 15 milliards. Le gouvernement perd chaque année dans les taxations douanières. C'est-à-dire, cela révèle qu'il y a beaucoup de choses que depuis 2015 jusqu'à ce jour, on n'a pas des arrêtés, on n'a pas des décisions prises qui vont amener des choses à la normale. Ce qui veut dire qu'ils observent tous les services d'information, et pensent révéler tout ce qui est le blocage de la perception de ces taxes. Non. En outre, ce que nous voyons aussi, les opérateurs économiques qui se voient, qui se retrouvent ce jour et s'enrichissent derrière ces opérations, c'est parce qu'en entrant de leur produit dans le pays, ils payent moins que ce qu'ils devraient payer. Ils devraient payer plutôt. Ce qui fait que nous pouvons observer à ce sens que c'est très avantageux pour eux, bien que le pays est en train de faire son air d'Israël, parce que aussi le gouvernement qui est en train d'opérer dans les grands services en douane, parlant des officiers de la DGDA et d'autres services, ces services sont au courant de ce qui se passe sur des frontières. Et ils savent très bien, parce que ces agents, on peut dire qu'eux aussi sont impliqués dans ces dossiers. Quand on dit qu'on va poursuivre les entreprises et les autres services ou les opérateurs qui ont réussi les lettres d'exonération pour leur trafic, cela veut dire qu'il y a aussi les autorités qui en ont signé et qui sont censées répondre à leurs actes. Mais parlons de cela aussi, je ne proposerai pas que nous puissions juste commencer par poursuivre. Mais nous pouvons d'abord restructurer les choses, c'est-à-dire la restructuration des différents arrêtés, des différentes lois signées et approuvées qui interviennent dans le secteur des finances en RDC doivent révéler certaines choses de plus importantes.
Alors, vous avez presque, rappelons que dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République était revenu sur la question de la réforme fiscale parce qu'il estimait qu'il fallait mener des réformes fiscales nécessaires. Et vous parlez de la restructuration. Avant peut-être de poursuivre, il faut restructurer. Le professeur pourra nous dire en quoi, peut-être dans les grandes lignes, en quoi doit vraiment consister cette réforme fiscale souhaitée par beaucoup de personnes. Mais Elise, vous dites qu'il y a les plus grandes retombées aujourd'hui, c'est la population qui va continuer toujours à coupir dans la misère. Pourquoi? Parce qu'il y a autant d'argent qui échappe au trésor public. Mais vous voulez vraiment qu'on arrive à mettre de l'ordre, à restructurer les secteurs de la fiscalité. Merci beaucoup, Elise. Emina Mwanda, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs. Je salue aussi la présence de notre invité là.
On vous écoute.
Mon avis quant à ce qui concerne les exonérations exagérées, parce que si on analyse bien la situation macroéconomique de la RDC, la RDC tend à connaître vraiment une chute économique très, très, très sombre. C'est pour cela que d'abord cette mesure est à saluer. D'autant plus que si on parvient à suspendre les exonérations illégales, d'abord, je sais très bien que les entreprises là qui bénéficient de ces exonérations là commenceront directement à payer les impôts. Et deuxièmement, quand ça concerne cette thématique là, les exonérations doivent d'abord être légales. On peut pas accorder une exonération d'une manière illégale comme ça. Pour asseoir cette décision, il fallait d'abord constituer une équipe qui va bien identifier toutes ces entreprises-là qui sont bénéficiaires de ces exonérations-là, et à part la suspension de ces exonérations, il faut aussi poursuivre en justice tout le monde qui ont bénéficié d'abord de ces exonérations et les agents qui ont octroyé ces exonérations. C'est ça d'abord mon point de vue.
Mais rappelons, oui, éminent Mwanda, vous avez dit il faut une équipe, mais disons, le débat est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le travail qui a été fait par l'Inspection Générale des Finances qui a rendu son rapport. Il y a eu une conférence de presse où l'inspecteur a annoncé aux médias qu'ils ont découvert 1300 exonérations qui ne répondent pas à la loi. Et ces exonérations représentent près de 5 milliards de dollars américains. Mais votre souci, c'est exactement non seulement qu'on puisse annuler, mais il faut aussi des poursuites. Parce que vous l'avez dit, les gens sont conscients. Quand ils le font, ils savent qu'ils le font en violant la loi. Merci beaucoup. Nous revenons à vous, professeur Mathias Pouvoir-Kayembe. Vous avez suivi nos compatriotes, mais la plupart souhaiteraient aussi cette question de réforme, de restructuration.
Oui, il faut réformer notre système fiscal parce que nous ne sommes pas seuls au monde. Mm-hmm. Nous sommes entourés de pays voisins, c'est-à-dire la Tanzanie, la Zambie, l'Afrique du Sud, etc. Et sur le plan, par exemple, de la douane, il faut que ce que nous percevons dans notre douane correspondent bien à ce que les autres perçoivent, pour que nous soyons compétitifs. Si nous percevons des montants trop importants par rapport aux autres, les gens se diront, les hommes d'affaires se diront, non, ça ne sert à rien d'aller là-bas, autant aller dans les pays voisins. Donc, sur le plan de la douane, comme sur le plan des impôts, il faut que nous soyons au même niveau, sinon plus attractifs que les voisins, pour que les investisseurs soient intéressés à venir chez nous. Parce que la fiscalité joue plusieurs rôles. Je comprends bien les interventions de nos frères qui insistent beaucoup sur le rôle fiscal qui consiste à approvisionner l'État en ressources financières. Mais il y a aussi le rôle économique de la fiscalité. Donc c'est pouvoir mettre en place des unités de production, également créer des emplois au pays. Donc il n'y a pas que le rôle fiscal, mais il y a aussi le rôle économique. Si on dit qu'il faut réformer, c'est expurger notre système fiscal, tout ce qui est superflu, tout ce qui bloque, etc. Et comme je l'ai dit ici, il y a encore beaucoup de blocages dans ce système fiscal. Regardez le nombre de camions qui traînent pour entrer dans notre frontière de Kasumbalesa, qui traînent du côté de la Zambie. Ça peut faire même une semaine ou deux semaines que les camions traînent là. Parce qu'il y a plusieurs services qui doivent percevoir des taxes. Chacun doit percevoir, la province doit percevoir, l'État doit percevoir. Et je crois qu'il faut assainir tout ça.
Mais professeur, plusieurs débats, plusieurs publications, vous-même, vous militez pour ça, qu'il faut assainir. On le dit toujours qu'il faut assainir, mais qu'est-ce qui doit être fait exactement pour passer à l'action et assainir? On le dit, on le souhaite, on le dit régulièrement. Et nous avons eu d'ailleurs un débat dans Parole aux auditeurs sur la question de l'amélioration des climats des affaires. On estime qu'il faut réformer, il faut assainir, mais on n'arrive pas.
Mais on n'arrive pas parce qu'on n'a pas
la volonté de
le faire. On n'a pas la volonté politique de le faire. On n'a toujours pas eu la volonté politique de le faire. Et je suis sûr que si on le faisait, la situation serait calme. Tout le monde serait rassuré. Vous avez vu par exemple les gens qui sont dans les mines. Les gens qui sont dans les mines, ils sont en train de protester parce que le code minier a accru la fiscalité minière. Et bon, alors, comme ils sont en train de protester, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si l'État ne veut pas les écouter, ils vont chercher à passer par la fraude.
Oui, par les voies détournées.
Par les voies détournées pour ne pas payer à l'État. Donc, je crois que c'est un problème. Je sens d'ailleurs qu'il y a la volonté de s'attaquer à cette question-là. C'est une question un peu complexe, parce que ce n'est pas tout le monde qui est fiscaliste.
Oui.
Et tout le monde qui peut comprendre les problèmes de la fiscalité. Donc, je suis sûr que on mettra certainement une équipe en place pour réfléchir et que les mesures seront prises.
Vous travaillez dans ce domaine. Si on peut faire un pas en arrière rapidement, Qu'est-ce qui avait milité? Quel a été le contexte qui a fait qu'on puisse se retrouver avec autant de droits, autant de redevances, autant de taxes? Il y avait quel contexte qui avait milité vraiment à ça?
Bon, mais c'est le contexte congolais, hein? C'est le contexte de dire qu'on veut avoir beaucoup de recettes. On veut avoir beaucoup de recettes. Parce que chaque ministère veut avoir des recettes. Vous allez voir, par exemple, le ministère de l'Industrie, qui est là pour promouvoir l'exportation de produits congolais à l'extérieur. Non, pas l'industrie, le commerce.
Commerce, oui, oui.
Le commerce va mettre une taxe sur l'exportation des produits à l'étranger. Cette taxe, c'est un blocage, en fait.
D'ailleurs, j'ai eu...
C'est un blocage.
On en a parlé sur les antennes de Radio Capi avec les exportateurs du secteur café-cacao qui ont même décidé à un moment qu'ils ne veulent plus exporter à cause des multiples taxes pour sortir les produits du pays.
Voilà. Donc, cette histoire concerne le ministère des Finances, concerne les inspecteurs des Finances. Et je pense sincèrement que chaque ministère devrait faire son travail. Laisser le ministère des Finances, les inspecteurs des Finances... Mm-hmm. Faire le leur. Mais parfois, les gens veulent tout faire à la fois.
Et comme vous l'avez dit, chaque ministère veut avoir l'argent.
Chacun veut avoir l'argent.
Il se dit qu'il
veut faire du bien pour l'État en créant des taxes. Mais en fait, il fait du mal pour l'État. Il fait du mal à l'État. Parce qu'il crée une situation qui devient difficile à gérer pour l'État et qui empêche. Alors, on va aller dans des pays voisins, on va aller par exemple en Tanzanie, on trouve que les choses ont changé, on s'étonne parce qu'ils étaient en arrière par rapport à nous, aujourd'hui ils sont devant, mais parce qu'ils ont fait ces réformes-là.
Et d'ailleurs aujourd'hui, quand vous voyez les domaines d'importation de véhicules, beaucoup de Congolais souhaitent même de pouvoir les importer à travers par la Tanzanie et puis les faire entrer au Congo. Parce qu'ils estiment que le devis qu'on vous fait de Dubaï, que ce soit du Japon jusqu'en Tanzanie, vous payez deux fois moins que quand vous importez votre véhicule à Boma ou à Matadi. Et les Congolais commencent à recourir vers le pays voisin.
Mais c'est ça, c'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en mettant beaucoup d'impôts ou en accroissant les taux d'impôts, et on ne va pas nécessairement arriver au résultat de faire des recettes. Le résultat serait dissuader les gens à s'intéresser à notre pays. Mm-hmm. Donc c'est ça le sens même de...
Exact. Voilà, on va écouter, je crois, on est en train de chuter, il y a deux auditeurs encore en ligne, Jérémy qui est à Lubumbashi, Alfred qui est à Kalemie. Jérémy, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot, bonjour également à l'invité.
On vous écoute, Jérémy.
Oui, en tout cas, le constat est amer. Vous savez que nous sommes dans un pays où, depuis un certain moment, on prône l'état des droits. Et alors, je me dis, l'exemplarité devrait être prêchée du sommet jusqu'à la base. Mais il se constate bien des choses. Vous savez que le constat est amer après, n'est-ce pas, la ronde qu'a effectué l'inspection générale, bien évidemment, de finances. Il en résulte, bien évidemment, que l'illégalité, n'est-ce pas, dans l'octroi des exonérations, s'est fait remarquer. Alors, maintenant, on se pose la question, la grande question que l'on se pose. À qui profitent toutes ces exonérations? Lorsque une seule personne, à elle seule, peut compter plus de 90, comment voulez-vous que notre pays décolle? Nous sommes dans un pays où nous devons prêcher le patriotisme. Les uns et les autres doivent quand même mettre en exergue ces principes pour que, n'est-ce pas, notre pays décolle. Sinon, notre économie traînerait toujours en berne. Il faut, normalement, tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à l'évasion fiscale soit écarté pour que les trésors publics soient renfloués, pour que les gouvernements, n'est-ce pas, trouve l'occasion pour pouvoir débattre d'un budget conséquent où on doit booster à partir de ce que nous avons comme impôts, etc., taxes. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut réduire, n'est-ce pas, les impôts et peut-être ne choisir que ce qui peut booster l'économie de notre pays pour que notre pays décolle. Sinon, le peuple congolais demeurera toujours dans cette situation
de misère, qui n'a de pauvreté.
Trop que durer.
Merci
oui,
beaucoup.
Il y a une autre chose aussi.
Rapidement, oui. Oui, allez-y.
Oui, je voudrais dire jusque là parce que. Oui, alors je voudrais dire qu'il revient maintenant, au jour d'aujourd'hui, de refaire les choses. Commencer par faire, donc c'est-à-dire un toilettage systématique dans ce secteur. Donc c'est-à-dire pour que les ministères seuls s'occupent dans l'octroi des exonérations. Pas de notre service. Parce que vous êtes sans ignorer, monsieur Pierrot, il y a même des histoires de laisser passer. Il faut que l'inspection générale s'y attelle là-dessus. Sinon, l'État congolais est en train de perdre de l'argent qui doit profiter à l'État. Comment voulez-vous, vous voulez faire un budget de 80 milliards? Ça arrivera comment? De 20 milliards. On n'a même pas atteint 10 milliards. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a déjà, nous sommes dans un État des intouchables. Alors, il faut que on puisse mettre les toilettages, remettre les choses sur l'orbite pour que vraiment la traçabilité soit vraiment bien déterminée pour qu'au jour d'aujourd'hui, notre pays décolle. Sinon, nous allons larmoyer
jusqu'à pleurer. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Vous avez dit, vous posez la question, mais à qui profitent ces exonérations? C'est la première chose. Vous avez même dit, il faut peut-être qu'on vérifie au niveau du rapport de l'Inspection générale des finances qui parlait des entrepreneurs ou des hommes d'affaires ou des individus. Une seule personne avec son entreprise qui a bénéficié près de 80 exonérations. Il y a eu tellement beaucoup de choses qui sont autour de cette affaire. Il reste peut-être à la justice de pouvoir faire son travail. Mais votre souci, c'est qu'on y mette de l'ordre, mais qu'on puisse le faire d'une manière à ce que l'État rentre dans ce droit. Merci beaucoup, Jérémy Alfred. Vous êtes à Calémi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Alfred.
Merci beaucoup. Moi, personnellement, je salue avec la meilleure les mesures prises par le chef de l'État visant à recadrer les choses sur les exonérations et les allègements tout en annulant toutes sortes de fraudes parce que ce sont les éléments qui auraient affecté sur les plans négatifs notre budget. Et pour ainsi pallier à l'idée du chef de l'État, j'aurais estimé ou souhaité que le gouvernement prenne cette fois-ci les précautions pour ne pas revenir dans les mêmes désordres, entre autres, le désordre d'établir, et entre autres, la préoccupation, celle d'établir un comité de suivi fort et dynamique, et vend de manière mensuelle, pour éviter, parce que j'estime que pendant tout ce temps, il y avait un comité de suivi, mais ces comités-là ne travaillaient pas à la normalité. Alors, j'aurais estimé que le gouvernement prenne des précautions, entre autres celle d'établir un comité fort et dynamique. Voilà un peu ma préoccupation.
Merci beaucoup. Ça veut dire le contrôle régulier de l'Inspection générale des finances sur toute cette matière. Vous avez parlé de la question de l'exonération. Jérémy a parlé sur la traçabilité parce qu'il y a autant de fraudes. Et Jérémy souhaitait même qu'on laisse seul le ministère des Finances gérer cette question-là. Merci aux uns et aux autres. Nous revenons dans ce studio pour conclure cet échange avec le professeur Mathias Bobo-Kayembe. Vous avez suivi les uns et les autres, comme vous l'avez dit. La question, elle est fiscale. C'est peut-être pas un débat dans lequel tout le monde peut s'engager, mais ça permet quand même à la population de pouvoir comprendre comment cela doit fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive autour de cette question si on doit améliorer sur l'aspect exonération dans le futur?
Bon, je pense que l'inspection des finances doit terminer son travail. Ce travail doit permettre au gouvernement de prendre des décisions pour assainir la situation dans ce secteur-là. Il faut assainir, il faut enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas légal, il faut le supprimer. Et il appartient au gouvernement de prendre les mesures pour éviter la répétition de ces situations. Maintenant, en ce qui concerne les services eux-mêmes, j'estime qu'il faut, parce qu'il y en a qui ont parlé de la traçabilité, du suivi. S'agissant de la traçabilité, je pense qu'il faut informatiser le service. Il faut que toutes les fonctions dans ce service-là doivent être informatisées pour permettre de faire un meilleur travail de suivi. Parce que si ce n'est pas informatisé, vous ne saurez pas que quelqu'un a recouru à 3 ou 4 ou 5 mécanismes qui existent à la fois. Mm-hmm. Il y a des hommes d'affaires qui recourent à tous ces mécanismes à la fois. Donc il y a des exos de telle, sur base de telle loi, sur base de tel texte, en ayant informatisé, on peut très facilement découvrir cela. Et on peut très facilement suivre la perception des recettes. Et quant à l'inspection générale des finances, je crois qu'elle va rester encore pour un petit temps dans ces régies financières pour faire l'encadrement des recettes, pour faire le suivi des recettes. Mmh. Et elle va rester encore peut-être jusqu'à la fin de l'année pour assurer le suivi et essayer de faire en sorte qu'on arrive à un budget qui se rapproche un peu de ce qui était arrêté au départ. Mmh. Au départ, on avait dit 11 milliards. Il y a eu la crise de la Covid qui est passée par là. Mm-hmm. C'est possible, peut-être qu'on arrive à 6 milliards ou 7 milliards en prenant en compte l'histoire de la Covid. Mais ça demande un encadrement. Mm-hmm. Parce que si les services peuvent fonctionner d'eux-mêmes sans qu'ils ne soient poussés par quelqu'un, tant mieux. Hein. Donc il faut rester avec eux, mm-hmm. travailler avec eux pour que dans l'avenir, ils soient capables de partir. Mais je crois qu'il faut informatiser le service, il faut assainir le service. Et cette informatisation nous permettra de comparer notre situation, comme je l'ai dit, avec mm-hmm. la situation des voisins. Ça permettra de voir, par exemple, on perçoit combien mm-hmm. en Tanzanie, on perçoit combien en Zambie, comme nous produisons les mêmes matières minières que la Zambie. Donc on va voir exactement, voilà ce que nous on perçoit. Voilà ce que la Zambie perçoit pour nous permettre de pouvoir supprimer ce qui est superflu.
Merci. Merci beaucoup, professeur Mathias Pobo-Kayembe, d'avoir accepté notre invitation et échanger avec les auditeurs de Radio Okapi. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Cette émission Parole aux auditeurs est sur www.radiookapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Marcel Ngombo. Pierrot Elmeji, ça a été pour moi un réel plaisir de vous l'avoir présenté. Merci. Et nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Au revoir.